BFM Business, la France a tout pour réussir. Jérôme Tichit.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans la France à tout pour réussir. Chaque semaine, chaque week-end, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et au sommaire, ce week-end, eh bien, on reviendra sur la semaine de l'industrie et notamment sur les ambitions françaises en matière d'hydrogène décarboné. Un exemple avec l'usine Genvia, basée à Sète dans l'Hérault. C'est l'exemple même d'une reconversion réussie d'un site industriel historique vers la transition environnementale. L'industrie française, eh bien, c'est aussi le retour, encore timide, mais ça bouge dans le bon sens, le retour du textile en France. On reparlera notamment de la nouvelle usine de fabrique de pantoufles du slip français, installée dans le département de l'Indre. Le slip français qui fête actuellement et par ailleurs ses 10 ans d'existence. Enfin, zoom sur deux sociétés qui viennent chacune de réaliser une très jolie levée de fonds, Pigment et Lifefun. Elles ont également un autre point commun, réduire et faciliter la bureaucratie de leurs entreprises clientes. Pigment réalise des documents financiers, Lifefun, elle, s'intéresse aux documents médicaux. Mais tout d'abord, depuis la semaine dernière, eh bien, il y a une nouvelle licorne, c'est la 22e et c'est Hawkin. Alors on n'est pas sur du 100% français, plutôt sur une licorne franco-américaine, puisque le siège de cette jeune start-up créée à Paris en 2016 a été transféré à New York. Hawkin accède donc au statut de licorne grâce à un investissement du géant pharmaceutique Sanofi à hauteur de 180 millions de dollars. Hawkin qui met l'intelligence artificielle au service de la recherche de médicaments anticancéreux, notamment les cancers du sein et cancers du poumon. Thomas Clauzel, l'un des deux médecins cofondateurs de Hawkin, était il y a quelques jours l'invité de Good Morning Business.
Nous sommes une plateforme qui permet d'augmenter la recherche en oncologie. C'est-à-dire que la plateforme travaille avec les meilleurs centres académiques de recherche dans le monde pour trouver les meilleurs datasets de recherche, c'est-à-dire une accumulation de données de patients avec de l'imagerie, de la génomique et des données cliniques. On transforme tout ça en des modèles de prédiction, prédire des réponses à des traitements, par exemple. Et ensuite, on essaie d'intégrer ces modèles de prédiction pour aider les industries pharmaceutiques comme Sanofi, qui innovent, à améliorer leur développement ou la recherche de nouveaux médicaments.
Eh bien, justement, vous parlez de Sanofi. Il y a eu un effet Sanofi pour vous hier, qui a investi 180 millions de dollars pour développer des anticancéreux. Revenir sur votre aventure avec Sanofi, ça va donner quoi en termes de gagnant-gagnant? On imagine, qu'est-ce que vous allez apporter à Sanofi? Et outre les fonds, qu'est-ce que vous apporte Sanofi?
Ce que Sanofi va gagner avec nous, c'est d'avoir des accès à des datasets très intéressants de recherche et des professeurs de médecine à travers le monde pour construire ces modèles de prédiction, notamment à partir d'imagerie. Il faut voir qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle permet à partir d'imagerie de trouver ce qu'on appelle des biomarqueurs, c'est-à-dire des petites parties de l'image qui permettent de faire ces prédictions. C'est quelque chose, par exemple, que l'œil humain ne peut pas faire. Et ces modèles-là de prédiction, cette analyse d'image, c'est quelque chose qui va pouvoir enrichir la recherche, à la fois pour trouver des nouvelles cibles ou des nouveaux essais cliniques. Et c'est vraiment ça qu'on apporte à Sanofi, des nouvelles technologies, une nouvelle façon de comprendre des mécanismes en analysant avec des nouveaux outils, des types de données un peu différents. C'est vraiment ça qu'on va pouvoir faire. Ce que Sanofi va nous apporter à nous, c'est évidemment toute l'expertise incroyable qu'ils ont dans l'industrie pharmaceutique, la connaissance du développement de médicaments et de la recherche. Et donc on est très synergiques. Nous, on apporte des technologies nouvelles, d'intelligence artificielle, et puis eux, leur expertise métier qui est évidemment très forte.
Et puis, contre le cancer, il n'y a pas que les traitements. Il y a aussi, c'est très important, les soins esthétiques. Je vous propose de réécouter une chronique de Noémie Vira. C'était dans Good Morning Business il y a quelques semaines. Noémie qui évoquait la gamme de cosmétiques même destinée aux femmes ayant été touchées par le cancer. Une entreprise née il y a 6 ans. Les détails donc avec Noémie Vira.
Même, c'est une ligne de cosmétiques spécifiquement conçue pour les femmes atteintes d'un cancer. Pendant le traitement, la féminité est mise à rude épreuve. On perd ses cheveux, on a la peau très sèche, les ongles abîmés. Et donc, les produits même ont été développés pour répondre à ces effets secondaires. Objectif, redonner confiance à ces femmes et leur permettre de mieux supporter le traitement. Mais avant tout, même, c'est l'histoire l'histoire mère-fille, une histoire d'amitié, une histoire de femme. Christophe, écoutez à notre micro Judith Lévy, cofondatrice de même.
J'ai perdu ma maman d'un cancer quand j'étais assez jeune et c'est avec elle et sa maladie qu'on a découvert à quel point les effets secondaires sur la peau pouvaient être hyper impactants et très très traumatisants et déstabilisants. Et j'avais vraiment à l'époque vécu ça comme une vraie frustration de ne pas trouver de réponse à apporter à tous ces problèmes. Et donc c'est de par cette expérience-là que nous est venue l'envie avec Juliette, mon associée et ma meilleure amie, qui a vécu des histoires assez similaires, qu'on a décidé de se lancer et de le faire.
Alors, on parle de commerce, de distribution. Alors, comment est distribuée justement cette marque ? Pharmacie, je crois. Hein ?
Oui, elle est présente dans 4000 pharmacies en France, en Belgique et en Suisse. Et comme la marque engagée Les Frangines, dont nous avons parlé récemment, l'objectif de même est d'accompagner les pharmaciens dans le développement de corners oncologie dans les officines. Mm-hmm. Donc, c'est la raison pour laquelle, pour l'instant, la marque ne souhaite pas développer de points de vente physiques. Elle pense que le pharmacien reste le meilleur interlocuteur pour accompagner ses patientes, tout simplement parce qu'elles ne sont pas confrontées seulement à des problèmes cutanées, mais à toutes sortes de problématiques. Et donc, elles ont besoin d'un avis médical. Les produits sont aussi disponibles en ligne. Créée il y a 5 ans, la marque propose désormais plus d'une trentaine de références et elle continue d'y travailler. La recherche et le développement d'un produit dure en moyenne 3 ans. Donc voilà, cela met du temps. Elles ont aussi créé cette année un podcast des femmes et des hommes qui racontent leur expérience de la maladie, des épreuves de la vie où on apprend à danser sous la pluie. C'est le nom qu'elles ont donné à ce podcast. À écouter, Christophe.
Tout autre sujet, cette semaine a eu lieu la semaine de l'industrie pour faire connaître via de nombreuses initiatives les acteurs et surtout les métiers de l'industrie. Il y a même eu ce vendredi sur BFM Business une journée spéciale industrie. Alors actuellement, il faut savoir qu'en France, 70 000 postes sont à pourvoir. Les explications d'Aude Kersulek, c'était lundi dernier dans le journal de Faïza Younsi.
L'industrie redémarre donc, le problème étant que beaucoup de ces offres, de ces 70 000 offres, sont difficiles à pourvoir. Un aperçu des emplois les plus en tension sur le site de Pôle emploi. Il y a des contremaîtres, des techniciens, mais aussi des ingénieurs. Par exemple, des directeurs techniques, il y en a pour tous les profils, tous les diplômes. Mais il est difficile de recruter parce que l'industrie pâtit d'un manque d'attractivité. C'est un constat, elle a généralement mauvaise presse auprès des candidats.
Et comment faire justement pour que l'industrie soit plus attractive et qu'elle comble ce manque?
Eh bien, c'est tout l'intérêt de cette semaine de l'industrie, faire connaître ces métiers-là et cibler les catégories peu représentées dans l'industrie. D'abord, les femmes. Non seulement les femmes sont sous-représentées, elles sont moins de 30% des salariés de l'industrie, mais ce chiffre n'a pas bougé depuis 10 ans. Et puis, elles occupent bien souvent des fonctions support. Bercy veut casser les codes en disant qu'elles peuvent participer à l'industrie de demain.
Et il y a une autre cible, Aude, ce sont les jeunes.
Oui, pour les jeunes, Bercy veut faire savoir que l'industrie possède des atouts. D'abord, contrairement aux idées reçues, l'industrie est rémunératrice. Ensuite, elle est technologique. Grâce à l'automatisation des process, eh bien, les conditions de travail se sont beaucoup améliorées. Et aussi, l'industrie œuvre pour la préservation de l'environnement. On le voit dans l'aéronautique, avec l'avion bas carbone, dans l'automobile, l'agroalimentaire ou encore le bâtiment, où l'objectif est de travailler à réduire l'empreinte environnementale.
Et pour faire tourner toutes ces industries, bien, il faut bien sûr de l'énergie. Une des pistes les plus sérieuses, les plus prometteuses, c'est l'hydrogène décarboné, ce qu'on appelle l'hydrogène vert. Il y a quelques jours à Béziers, Emmanuel Macron a annoncé que 1,9 milliard d'euros allait être consacré à la mise sur pied d'une filière hydrogène décarboné dans le cadre du plan France 2030. Et si le président était à Béziers, eh bien, c'était parce qu'une des premières gigafactories d'hydrogène vert vient d'y être créée. C'est l'usine Genvia, qui est née d'un partenariat public-privé entre le CEA et l'entreprise Schlumberger. Dans un instant, on va donc écouter la présidente de Genvia, Florence Lambert. Mais tout d'abord, c'est quoi l'hydrogène vert ? Eh bien, écoutez les réponses signées Jean-Baptiste Huette.
Amener d'ici 10 ans le kilo d'hydrogène sous la barre des 2 euros contre 12 aujourd'hui. C'est ce que promet Genvia. Son secret, l'électrolyse à oxyde solide. Une technologie de rupture qui permet de produire de l'hydrogène vert avec un rendement imbattable. De la vapeur d'eau est dissociée sous l'effet d'un courant électrique et d'une température de 800 degrés. Une technologie réversible, aussi bien capable de produire de l'hydrogène pour la stocker que de produire de l'électricité à partir d'hydrogène. Genvia est issue d'un partenariat public-privé, le CEA, Schlumberger, Vinci, Vicat. Genvia a déjà déposé une quarantaine de brevets. Inaugurée le 30 mars dernier, l'entreprise est l'une des premières gigafactories d'électrolyseurs. Sa technologie est jugée la plus efficace et la plus rentable pour la production d'hydrogène décarboné. Les effectifs doivent atteindre 500 personnes d'ici 2025. La région Occitanie prépare d'ailleurs un centre de formation pour recruter les profils nécessaires. Pour sa présidente, l'ambition est claire, faire de Genvia un acteur industriel de taille mondiale dans l'hydrogène vert.
Vous avez été créé en mars, fin mars, et vous apprêtez à devenir opérationnel quand, à recruter 500 personnes quand, ça va très très vite du coup. Enfin, la France est capable d'aller du labo à l'entreprise. Hein.
Complètement, c'est un vrai message positif hein, de la recherche française, la recherche publique française qui est en mesure de développer des technologies hein, de niveau mondial, parce que cette technologie dont on parle, en fait, elle a plus de 40 brevets, et ce qui nous positionne en top mondial complètement. Mais faire des technologies, c'est bien. Les industrialiser à des coûts compétitifs, c'est mieux. Et c'est vraiment toute la philosophie de cet attelage entre la recherche publique française, donc le CEA, qui est co-actionnaire majoritaire avec le groupe Schlumberger, qui va vraiment nous permettre de projeter, donc je crois que la notion de vitesse est importante, hein, de projeter cette technologie dans un référentiel industriel. Alors ça va très vite, comme vous le soulignez, on a été créé au mois de mars, nous avons déjà un atelier qui fonctionne, et on aura un atelier pilote complètement automatisé l'année prochaine.
Est-ce que vous pouvez nous dire quelles utilisations concrètes, sur quelles utilisations ça va déboucher ?
Mais il y a des secteurs qui émettent encore du CO2, les cimenteries, les aciéries, certaines industries chimiques. Et dans ce contexte, l'hydrogène va être un vrai atout pour les décarboner. En fait, on va utiliser le CO2 émis, on va produire de l'hydrogène en local et valoriser ce CO2 en faisant, par exemple, des carburants de synthèse. Donc, au cœur de tout ça, il y a cette électrolyse. Il y aura donc des électrolyseurs Genvia sur ces lieux d'industrie de demain.
Et puis l'industrie française est aussi, et petit à petit, le textile qui revient sur notre territoire. Plusieurs entreprises osent la relocalisation. C'est le cas du slip français qui fête actuellement ses 10 ans et qui vient de lancer en France, près de Tours, une manufacture de fabrique de pantoufles. La pantoufle qui représente environ 15% du chiffre d'affaires du slip français. Dans un instant, on va donc écouter Guillaume Gibault, le président du slip français, nous parler de cette nouvelle aventure industrielle. Mais tout d'abord, eh bien, il revient au micro d'Edwige Chevrillon sur ce qui est encore la très faible proportion du textile made in France acheté par les consommateurs français. Guillaume Gibault.
Selon les chiffres, entre 3 et 10% des produits textiles consommés en France qui sont effectivement fabriqués en France, donc la marge, elle est immense. Un autre chiffre, dans les années 90, en France, il y avait 460 000 emplois textiles. Aujourd'hui, il y en a 60 000, donc c'est effectivement 90% des emplois textiles qui sont partis, fabriqués plus loin, parce que moins cher en fonction du coût de travail. Aujourd'hui, on voit que le bon sens environnemental, sociétal, savoir d'où vient le produit, par qui il est fait, ça devient de plus en plus demandé par les clients, donc les entreprises s'y mettent. Et c'est vrai qu'il y a un vrai mouvement de fond pour relocaliser, mais le sujet reste entier, ça coûte plus cher, puisque le coût du travail en France coûte plus cher. Donc un produit textile à fabriquer en France, il va coûter 30, 40, 50, 70% plus cher que si on le fabrique en Chine. Donc il y a un vrai sujet de pouvoir d'achat.
Si moi j'achète, je sais pas, des caleçons, si on achète 3 pour H&M, ça coûte 14€, 15€. Et chez vous, ça vous coûte quoi, 100€
ça va coûter, exactement, ça va coûter 80-90€. Ouais. C'est certain, aujourd'hui, on va être 2-3 fois plus cher que l'équivalent qu'on peut trouver dans la grande distribution ou chez H&M. Ouais. La vraie question, c'est quel prix a été acheté ce caleçon qui vaut 14€ par l'autre de 3, combien il a été payé à la personne qui l'a fabriqué à l'autre bout du monde, quel est l'impact environnemental, quelles sont les normes dans lesquelles ça a été produit et combien est payé la personne qui l'a fabriqué. Et en vrai, pendant 30 ans, on ne s'est pas trop posé ces questions-là parce que c'est des questions qui sont compliquées. Hein. C'est vrai que nous, nos produits à 35 ou 40 euros le sous-vêtement, c'est sûr que c'est plus cher. Après, le pari qu'on fait aussi, c'est de faire des produits de qualité qui vont durer plus longtemps, qu'on va acheter moins mais mieux. C'est toujours cette idée hein, de se dire qu'on ne va pas acheter 5 fois dans des vêtements, mais on va l'acheter peut-être une ou deux fois. On va bien les choisir, mettre un peu plus de sous, bien les entretenir. Et je pense que c'est un changement de mentalité profond. C'est pour ça que pour moi, ce n'est pas une rupture du jour au lendemain, c'est vraiment quelque chose de long terme.
Et les slips français alors ?
Alors les slips français, on se porte magnifiquement en cette année, 10 ans, un petit coup de vieux quand même, 10 ans, mais on se redit, on est devenu entreprise à mission l'année dernière, notre mission c'est de réinventer avec panache l'industrie textile française.
Si on regarde aujourd'hui, vous avez 25 000 ans de chiffre d'affaires.
Oui, à peu près.
C'est quoi, il y a le slip, le chandail
Aujourd'hui, c'est notre premier métier, c'est le sous-vêtement, 40%, les vêtements 20%, le pyjama 15% et le chausson avec justement la pantoufle, qui est notre, je vais vous en parler, 15%. La pantoufle, c'est assez dingue, moi j'aime l'histoire.
J'adore les pantoufles, hein, c'est pour ça que je...
Et donc la pantoufle, nous, ça fait 5 ans qu'on en vend et ça fait 5 ans qu'on travaille avec les fabricants historiques de Charentaise et la demande est telle qu'on n'arrive pas, avec ses partisans et ses partenaires historiques, on n'arrive pas à fabriquer assez vite. Et du coup, on s'est dit, ça fait 5 ans qu'à Noël, on est en rupture de stock, d'abord au 10 décembre, puis l'année d'après au 15 novembre, puis derrière au 1er octobre. On se dit, on va essayer de trouver une solution. On pourrait, comme dans l'ancien monde, aller fabriquer plus loin et les acheter dans un autre pays. En fait, non, on se dit qu'on va peut-être prendre la voie difficile, mais celle qui colle avec notre mission d'entreprise, d'ouvrir une usine. Donc on vient d'ouvrir là à Châtillon-sur-Indre, à côté de Loches, à côté de Tours pour ceux qui voient sur la carte de France, la manufacture de pantoufles. Et on fabrique aujourd'hui entre 50 et 100 paires de pantoufles par jour dans cette usine avec voilà un savoir-faire. On a acheté des machines, on a 4 personnes qu'on a embauchées plus un formateur et on met de grands espoirs dans cette manufacture de pantoufles pour arriver à répondre à la demande.
Voilà, et vous aurez bien noté qu'à un mois de Noël, vous aurez bien noté la passion d'Edwige Chevrillon pour les pantoufles. Donc une nouvelle manufacture à Châtillon-sur-Indre, à quelques kilomètres de là, dans le même département de l'Indre. Eh bien, on va retrouver Justine Vassogne dans une autre jeune entreprise créée il y a une dizaine d'années seulement pour répondre justement à ce retour en grâce de la pantoufle, notamment de la charentaise. L'entreprise s'appelle La Pantoufle du Berry et c'est un reportage donc réalisé au printemps dernier par Justine Vassogne dans le cadre de la série La France qui résiste.
Aujourd'hui, on est à Vatan, dans le Berry, devant l'atelier de la Pantoufle du Berry, qui fabrique des charentaises depuis une dizaine d'années et qui profite de l'envie des Français de pantoufler en ces temps de crise sanitaire et de confinement. On va voir ça. Martine Baudin travaille à la Pantoufle du Berry depuis sa création en 2011. Elle est couturière et il lui faut à peine 10 minutes pour fabriquer une paire de charentaises.
Une charentaise, c'est tout simple. Quand elle est coupée avec une machine à la presse, avec un emporte-pièce, on fait la jointure arrière. Ensuite, on met un galon pour cacher la première couture et la renforcer. Ensuite, elle est bordée. Et ensuite, en dernière étape, pour moi, au niveau couture, je mets le fond de la pantoufle où le pied repose. Et après, ça va au collage de semelles.
Dans le Berry, on ne fabrique pas des charentaises, mais des bérisiennes. L'appellation charentaise est en effet contrôlée. Ces dernières années, ces chaussons n'avaient pas franchement la cote. La pantoufle du Berry vivotait, mais cette année, l'entreprise a retrouvé une seconde jeunesse. Michel Salmon et son fils Rémi ont repris les rênes de l'entreprise aux côtés de Martine au mois de juillet. Au début, ils ont été un peu débordés.
On s'est fait tous surprendre, que ce soit donc nous ou nos confrères qui font également de la pantoufle. Personne n'avait vu cette vague arriver. Nous, on a manqué de matières premières assez rapidement. Cet engouement n'était pas du tout prévu et nous a handicapés dans un sens où on n'était pas forcément préparé à ça.
Avec la crise sanitaire, la pantoufle du Berry a doublé son chiffre d'affaires. Elle devrait finir l'année autour de 380 000 euros. Très vite, les Salmons ont compris qu'ils devaient miser sur le digital.
La première action qu'on a effectuée ici, c'est de refaire un site web, on va dire plus moderne, plus sécurisé et proposer quelque chose de plus ludique et fluide pour les utilisateurs.
Il a aussi fallu travailler le référencement. La prochaine étape maintenant pour la pantoufle du Berry, qui compte 5 salariés, c'est de s'agrandir pour faire face à la demande grandissante.
On peut se permettre de recruter des personnes pour augmenter la production. Il y a quand même pas mal d'attentes, surtout en hiver. Donc nous, notre objectif, c'est de diminuer cette attente.
Cet hiver, il a parfois fallu attendre un mois avant de recevoir ses charentaises. En recrutant, la pantoufle du Berry veut se donner les moyens de ses ambitions, être distribué sur tout le territoire français, car pour le moment, ces charentaises sont surtout vendues dans le nord-ouest de l'Hexagone. La pantoufle du Berry veut aussi étendre sa présence aux États-Unis. On peut déjà trouver ses chaussons version marinière dans une boutique à Brooklyn. Elle veut enfin continuer d'élargir sa gamme avec des couleurs plus vives pour s'adresser à une clientèle plus jeune.
Et après l'industrie, on va revenir donc à du logiciel, de l'immatériel, mais c'est très très utile tout de même bien sûr pour les entreprises. On va parler de Pigment, une start-up française qui vient de lever 73 millions d'euros. Son cœur d'activité créé facilement pour ses entreprises clientes, le budget prévisionnel ou encore le business plan, des documents utiles à la fois pour de futurs investisseurs ou pour élaborer la stratégie de la boîte. Et parmi les clients de Pigment figurent déjà des grands noms comme Deliveroo, Blablacar ou encore Mano Mano. Romain Nicoli, qui dans le passé avait fait partie de l'équipe fondatrice de Criteo, est venue il y a quelques jours nous parler cette fois-ci donc de Pigment qu'il a co-créé il y a 2 ans.
Pigment, c'est une entreprise qui a été créée il y a un peu plus de 2 ans et qui développe un logiciel de planification et de prévision pour les entreprises. Donc ça permet de créer le budget, le business plan, en simulant les revenus et les coûts.
Donc à tout moment, on peut montrer à des tiers, par exemple à des investisseurs qui vont investir dans la boîte, à un banquier, où on est notre feuille de route, vers quoi on tend à 2, 5, 10 ans et pourquoi on est en ligne ou pas avec notre objectif.
Absolument. Montrer à des banquiers ou pour piloter l'entreprise en interne. Pour vous donner quelques exemples concrets de questions auxquelles Pigment peut permettre de répondre et de prendre des décisions, c'est par exemple le lancement d'un nouveau produit, l'expansion dans un nouveau marché, le recrutement de collaborateurs, le besoin en financement que vous citiez, ou la définition d'une nouvelle clientèle, par exemple. Tous les sujets opérationnels de l'entreprise qui ont besoin d'être mesurés quantitativement.
Alors, preuve de l'efficacité, hein, Blablacar, Mano Mano, Deliveroo, Spendesk, qui ont fait appel à Pigment pour effectivement planifier ce qu'ils allaient faire, leur business model notamment. Est-ce que vous avez réussi à calculer le temps qui était gagné par vos clients en utilisant Pigment?
En moyenne, on estime que ça permet de diviser par 3 le temps qui est pris pour la planification de l'entreprise, ce qui permet de se concentrer à des tâches de plus forte valeur ajoutée. Donc de passer beaucoup moins de temps sur les tâches manuelles et d'explorer des scénarios stratégiques différents, de se focaliser sur ce qui va permettre à l'entreprise de se développer dans les meilleures conditions.
C'est quoi l'ambition avec ces 73 millions de dollars? Qu'est-ce que vous allez faire?
Alors cette nouvelle levée qui intervient après celle de l'année dernière, hein, d'à peu près 20
ça va très vite, hein, d'ailleurs, hein, c'est impressionnant, hein, 100 millions en 18 mois, quoi, c'est pas mal. Hein.
Donc ça permettra principalement de se développer à l'international.
Ouais, parce qu'il y a beaucoup le marché est gros à l'international pour vous.
Oui, alors pour nous ça va être les cibles, c'est la France, l'Europe, mais surtout les États-Unis.
Avec cette internationalisation aux États-Unis, vous allez augmenter vos équipes, j'imagine?
Oui, alors aujourd'hui, les équipes de Pigment, c'est 60 personnes, réparties à peu près pour moitié entre l'équipe de recherche et développement et l'équipe commerciale. Et donc, cette levée de fonds va permettre de faire grossir les deux pôles, c'est-à-dire de continuer à investir sur la recherche et développement et de faire grandir des équipes commerciales dans différents pays en Europe et aux États-Unis. Aux États-Unis, on va ouvrir un bureau dès le début de l'année prochaine.
Et pour terminer, une autre grosse levée de fonds de ce mois de novembre, eh bien c'est l'iPhone qui vient de rassembler 50 millions d'euros. L'iPhone, un peu comme Doctolib ou comme Covid Tracker, c'est l'exemple même de ces startups qui mettent leur créativité au service d'un système de santé qui a vraiment tout à gagner à sous-traiter toute cette bureaucratie bien trop chronophage et bien trop loin de ses missions médicales. Alors concrètement, eh bien l'iPhone propose de mieux gérer l'envoi de documents entre les praticiens, les établissements et les patients. D'autres solutions numériques sont également proposées aux quelques 600 établissements qui se sont déjà abonnés à l'iPhone. Le cofondateur de l'entreprise, Franck Lehouet, est venu expliquer à quoi donc allait servir cette nouvelle levée de fonds de 50 millions d'euros.
On va beaucoup investir en R&D pour investir sur cette plateforme dont je parlais, donc qui permet vraiment de faciliter le déploiement des solutions numériques en santé. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est commencer à sortir de France et aller tester tout ça dans les pays voisins.
Quel pays? Parce que c'est ça la difficulté, c'est que les systèmes de santé sont propres à chaque pays. Il faut s'adapter, il faut préparer toutes les applications à tous ces systèmes
différents.
Exactement,
c'est un secteur qui est compliqué. Chaque pays, en fait, est très différent des autres. Donc là, on regarde de très près l'Allemagne et l'Angleterre, qui sont tous les deux très très intéressants mais très différents. Et justement l'ambition, c'est d'arriver finalement à faire cette plateforme là qui va cacher un peu entre guillemets les différences locales entre les pays, les régions, pour faciliter encore plus l'innovation dans ce marché là.
Comment ça se passe sur ce métier? J'imagine que les contraintes réglementaires sont fortes, la confidentialité des données. Est-ce que vous devez être forcément agréé par une autorité publique à chacune de vos étapes et pour chaque logiciel, pour chaque solution que vous développez?
Effectivement, ça dépend des pays, mais il y a souvent une réglementation qui est assez forte et présente, et heureusement, je dirais, parce que c'est nécessaire. Ouais. Donc en France, il y a par exemple, pour transporter la donnée de santé, il faut être agréé messagerie sécurité de santé. Ouais. On est agréé hébergeur de données de santé également, ISO 27001, voilà, un ensemble de choses qui...
Et vous pouvez piocher, par exemple, dans le dossier médical partagé ou mettre des éléments dedans?
Alors effectivement, donc on peut, là aussi c'est d'autres types d'agréments, mais on peut également faire tout ça. Ouais.
Est-ce que vous avez réussi à savoir combien de temps vous allez faire gagner aux soignants? Parce que c'est ça le grand problème de l'hôpital, c'est sa bureaucratie, son administration, et tous les médecins qu'on connaît nous disent que c'est effrayant. Les fax, par exemple, ou les dossiers qu'on doit remplir à la main.
En fait, ce qui est extrêmement pénible pour tout le monde, c'est de devoir taper deux fois la même information parce que les fichiers ne sont pas compatibles, scanner un document et après faut tout... voilà. Et donc tout ça, en fait, ça peut être automatisé si on s'intègre mieux. Et donc c'est tout ce qu'on essaie de faire auprès de nos clients.
Bon, bah écoutez, vous avez combien de salariés aujourd'hui?
On est 160 et là, on a un gros problème de recrutement. On recrute 200 personnes sur les 18 prochains mois. Là.
Ah oui, 200 personnes, vous allez doubler de taille, quoi.
Voilà, voilà.
Bon, bah écoutez, appel à candidature aider le système de santé français à devenir moderne et digital grâce à vous, grâce à l'iPhone.
Voilà, donc là, il fait encore une entreprise qui lève des fonds, encore une entreprise qui veut recruter, mais qui connaît quelques difficultés sur ce sujet-là, en France comme dans bien d'autres pays, malheureusement. On se retrouve donc le week-end prochain pour un tout nouveau numéro de La France à tout pour réussir. Je recevrai notamment Grégoire Pignet. Son entreprise lyonnaise vient, elle aussi, de lever 10 millions d'euros. Il s'agit, son entreprise, de 360 Médics. C'est en quelque sorte un moteur de recherche du secteur médical. On en parle donc dans la toute prochaine émission de La France à tout pour réussir. D'ici là, bien sûr, très bon week-end et très belle semaine sur BFM Business.
BFM Business, la France a tout pour réussir.